Je vous invite à prendre vos Bibles. Et on va mettre le PowerPoint, la première diapo. Et ce matin, bien, j'aimerais vous adresser sur un tout autre sujet qui, pour ceux qui étaient à l'école du dimanche, va être une suite. On a parlé à l'école du dimanche aux adultes dans la Genèse, le chapitre 38. Et ce matin, nous allons regarder ensemble la vie de Joseph. Mais un peu différent que vous l'avez déjà entendu. Joseph est un personnage qu'on aime. C'est un personnage dont on ne connaît rien de négatif qui est dit sur lui. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans les Écritures dont on donne un portrait si beau. Même certains l'ont souvent fait beaucoup de typologie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, j'aimerais l'aborder différemment. Le Seigneur a touché beaucoup mon cœur les 4 semaines qui ont précédé le 25 décembre. J'ai recommencé dans mon culte personnel à lire les Écritures dans le texte hébreu pour garder la langue vivante pour moi. Puis j'ai pris du temps pendant les 4 semaines à repasser tout le chapitre 37 à 50, tout le récit de Joseph. Et le Seigneur m'a beaucoup encouragé, beaucoup parlé, à m'attarder à tous les détails du récit pour découvrir comment le Seigneur Comment est-ce que le Seigneur a guéri un homme qui portait autant de blessures? Comment le Seigneur a pu guérir cet homme à un tel point qu'il puisse être si guéri qu'il contribue à la guérison de ses frères? Quelle puissance pour atteindre une si grande guérison? Et dans une salle comme celle-ci ce matin, certainement, des dizaines, pour ne pas dire une grande partie, portent des marques dans vos vies de blessures, des cicatrices de toutes sortes, que vous portez depuis l'enfance, dans votre vie conjugale, dans votre famille, au travail, de toutes sortes de blessures que Dieu a permis qui arrivent dans vos vies. Comment les soigner? Comment, à travers l'histoire de Joseph, on peut découvrir des clés pour se guérir pleinement, comme le Seigneur a fait avec Joseph? C'est ce que j'aimerais faire avec vous ce matin, en commençant par la lecture d'un simple verset que vous connaissez bien. Si je peux avoir le diapo. Je pense que je donne du fil à retordre. Si vous voulez, j'ai la clé USB encore ici, si jamais vous en avez besoin. Mais vous connaissez bien le passage de Romains, chapitre 8, le verset 28. C'est quoi? On le dit ensemble, « Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. » Combien croient cela? Combien? Il y en a, par exemple, que j'entends, là. Oh, j'y crois, Joël. J'y crois. Mais c'est honnête, ça, c'est bon, en fait. Vous savez pourquoi? Parce que la réalité, c'est que malgré qu'on croit dans ce verset, qu'il a été une source d'encouragement pour beaucoup, quand on est dans l'épreuve, et quelqu'un de très attentionné vient vous lire ce verset, on fait tu peux pas rien dire, c'est la parole de Dieu, tu sais. Mais dans le fin fond de nous-mêmes, qu'est-ce qu'on vit, hein? On se dit, ouais, mais si toi tu vivais tout ce que je vis, là, peut-être tu me lirais pas ça dans la face. Hein? Peut-être tu lirais avec une attention différente. Parce que c'est bien beau de dire qu'on croit que c'est la parole de Dieu, mais quand on vient qu'à croire ce verset-là pleinement, ça veut dire que je peux être joyeux malgré les douleurs, que je peux être en paix malgré la détresse, malgré tout ce qui arrive. Je peux garder le cap et ne pas sombrer dans la dépression. C'est tout un défi. Et on va prendre la deuxième diapo qui a justement ce verset et lisez-le attentivement. Nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qu'il a appelés selon son plan. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans nos vies qui est arrivé et qui a comme échappé à Dieu. Oups, je l'ai pas vu se passer celle-là. Ça arrive pas, ça. Ça arrive pas, là, que là, il arrive une affaire, puis Dieu l'a échappé, celle-là. Mais ça veut pas dire que c'est plus facile, ce qu'on vit. Comment passer à travers cela? L'histoire de Joseph est une illustration incroyable de comment Dieu tire les ficelles dans les coulisses de l'épreuve avec cette vérité en avant-plan, malgré qu'on ne voit pas les ficelles qui sont tirées. Et c'est ça le défi dans l'épreuve. C'est qu'on est là devant et on regarde la scène de l'épreuve. On voit les choses à l'apparence, mais on voit pas tout ce qui se passe, tout ce qui se trame dans les coulisses. Et c'est quoi la prochaine surprise qui va nous arriver? C'est qui le prochain acteur qui va sauter dedans? C'est quoi le prochain événement, la prochaine tuile qui tombe? On le sait pas. Et on le sait pas pourquoi ça tombe pour ce qui s'en vient. Mais par la foi, on a ce verset qui nous dit, il y a pas rien qui arrive dans ta vie pour rien. Dieu n'a jamais perdu le contrôle dans les événements difficiles de ta vie. qui te cause du chagrin, de l'inquiétude, des pleurs et bien du souci de toutes sortes. Dieu n'a pas perdu les ficelles. Comment y croire? Bien, ce matin, on va regarder, j'espère vous encourager à travers l'histoire de Joseph, à découvrir cela. Vous savez, l'épreuve, c'est comme deux côtés d'une médaille. D'un côté, l'épreuve est là pour nous faire grandir, et c'est un outil de la part de Dieu. Et on nous dit que l'apprentissage, la patience vient par l'épreuve. Donc, vous ne pouvez pas être patient sans l'épreuve. Ça, c'est tough. De l'autre côté, Satan veut prendre l'épreuve et en faire une occasion de chute pour chacun d'entre nous. Il veut que l'épreuve devienne une occasion de frustration pour nous, qu'on s'indigne devant « Mais moi, je suis un chrétien, j'aime Dieu, pourquoi Dieu permettrait une chose aussi mal dans ma vie quand je vois mon voisin qui n'aime pas Dieu, qui ne cherche pas les choses de Dieu, et lui, il réussit, il a un salaire à 6 chiffres et plus, ça a l'air à bien aller dans sa vie, et le mot-clé, c'est que ça a l'air. Ça a l'air, OK? Ça a l'air. Et ça a l'air, là, c'est testé avec le temps et dans l'éternité. Et ça, c'est la scène, ce qui paraît. C'est la façade. Et il veut nous faire tomber avec ses images pour dire, Dieu est-il vraiment juste? Dieu, es-tu vraiment avec toi? Est-ce que Dieu te récompense pour les pas de foi? Et là, de douter que Dieu ne tiendra pas cela, que vous êtes une exception. Et là, tout à coup, une occasion de chute, une tentation de l'ennemi. Alors, d'un côté, il y a l'épreuve qui est bon, qui est bénéfique pour nous. Satan veut prendre la même épreuve et en faire une occasion de chute. Deux côtés d'une même médaille pour lequel on utilise le même mot. Deux vérités qui cohabitent ensemble. Quel défi! Quel défi! Un peu comme l'huître, cette image naturelle que Dieu donne à la nature, où ce qu'on voit, ce petit grain de sable qui vient irriter l'huître et l'huître qui donne de cette substance qui vient entourer et camoufler, la protéger de cette irritation, il met cette, je ne sais pas comment on appelle ça, mais toute cette, comment? Le nacre dessus pour le protéger et qui fait ce qu'on appelle une perle aujourd'hui. Et combien on l'admire et qu'on considère précieux une perle aujourd'hui. Et pourtant, ça a été engendré par bien des douleurs, bien des irritations et bien des années. Ainsi, le Seigneur nous forme et fait de nous des perles de l'état brut que nous étions pour son royaume. Mais avec combien de douleurs et combien de temps Dieu nous travaille une fois. Et c'est une image naturelle qu'on retrouve dans la nature qui nous enseigne cela. Mais je vous donne une illustration avant d'aller dans notre récit. Je suis l'aîné de 4 enfants. Une de mes petites sœurs qui a 32 ans, Lisa, il y a quelques années, elle a eu un accouchement difficile. Elle avait des enfants comme des chats. Ça sortait, là, puis après sa première accouchement, j'étais là, puis elle a dit, hein, « C'est juste ça! » Et combien de femmes ici voudraient bien avoir ça? Hein? Amen! Ma femme, elle aurait bien voulu que ça soit juste, ah, c'est juste ça! Elle avait ça comme des chats! Et là, au 3e enfant, il désirait en avoir 4. Le 3e enfant, ça s'est compliqué. Elle a eu une embolie pulmonaire. Et c'était sérieux, c'était juste un peu avant l'accouchement. Elle a dû prendre des médicaments, éclaircir son sang. Et il fallait qu'elle survive à cette embolie pulmonaire. Elle était jeune et forte, elle a pu passer à travers, mais ça amenait des complications pour l'accouchement parce que l'éclaircissement du sang, il y avait peur d'une hémorragie. Et le Seigneur l'a protégée divinement à travers cette épreuve. Mais ça a été la fin de la famille. Elle dit, bon, tu n'iras pas plus loin, ça s'arrête à 3. Son mari a dit, non, moi, j'ai 3 enfants, je veux une femme en santé, je ne prendrai pas de risque d'avoir un autre. C'était une grande déception pour elle, une épreuve dans sa vie, cette maladie. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle est pleinement guérie de cette embolie pulmonaire, qui soit dit en passant, justement, emporté dans sa tombe. Mon oncle, Marcel Tétrault, que plusieurs peut-être connaissent, et les funérailles vont être prochainement. Alors, c'était sérieux. Quelques années plus tard, puisqu'ils avaient le deuil à gérer de ne pas avoir d'autres enfants, ils ont fait des demandes pour la DPJ locale à Kingston, en Ontario, pour aller vers l'adoption. Et à travers le processus, ils ont été discriminés, comme bien les familles ici au Québec, vu leur conviction sur l'usage équilibré de la correction physique. Alors, ils ont été discriminés, et là, ça s'entend encore une fois, « Mais là, Seigneur, on voulait un autre enfant, on peut pas à cause de la maladie, on l'a essayé avec la DPJ, ça marche pas, on n'a pas vraiment les sous pour aller à l'extérieur, on l'a tellement à cœur. » Et c'était là, et le refus avait été dur pour elle. Ça avait été source de larmes, tout comme la première fois. C'était une épreuve difficile pour elle à gérer. Elle avait vraiment ce désir. Mais tout au long de ces épreuves, le Seigneur est en train de préparer le terrain pour d'autres choses, pour mieux. Et que si un enfant était rentré, ça aurait bloqué pour un projet encore meilleur. et plus parfait aux yeux de Dieu. Mais il avait besoin d'un temps. Il avait besoin de déception qui forgerait son caractère. Et il y a deux semaines, le Seigneur leur a apporté un enfant, mais par une voie différente. Cet enfant se trouve à être l'enfant d'une dame qui ne pouvait pas s'occuper de ses enfants et qui avait déjà eu d'autres enfants, et dont un de ces enfants-là a été adopté dans ma famille, d'une de mes cousines, la sœur de Julie, justement, Sonia. Et cet enfant est adopté, la mère a eu un autre enfant plus tard, et par le lien cousin-cousine que nous avons dans la famille, qui est favorisé aussi pour les fratries, le grand-père a fait la demande pour qu'eux puissent avoir l'enfant. Et aujourd'hui, ils ont la belle petite Rebecca chez eux depuis deux semaines. C'est pas merveilleux? Mais à l'apparence, au début, il n'y avait que déception. Il n'y avait que frustration, de maladie, colère devant les préjudices qu'elle vivait pour sa foi, devant ses convictions personnelles qui étaient, pour lesquelles elle est discriminée. Pour des buts nobles que Dieu devait, me semble, récompenser. Et il y avait un temps. Il y avait une étape, il y avait un chemin différent, et le Seigneur tirait les ficelles dans l'arrière-scène. Mais à l'apparence, on ne le voyait pas. Ça se passait tout en arrière-scène. Et combien on a besoin de demander au Seigneur, « Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Seigneur, et on va en parler dans un instant, fais-moi des clins d'œil que je puisse saisir pour voir que tu es là. » Allons dans le livre de Genèse et le chapitre 37, et juste lire quelques instants. Et ce matin, on va regarder ensemble l'histoire de Joseph d'une manière générale. On va voir la vision dans les coulisses. Nous allons voir la souffrance, la guérison et la liberté d'action lorsque vient la guérison. Chapitre 37, et lisons quelques versets, après quoi on va demander au Seigneur de bénir la lecture de sa parole. Chapitre 37, le verset 1 à 11. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père, en fait ses concubines. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu règneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe. Et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi et ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Père Céleste, nous avons lu ce matin la parole de Dieu. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir la lecture de ta parole et de nous enseigner ce matin. Aide-nous à comprendre. Ce matin, je te prie pour ceux et celles en cette salle qui vivent l'épreuve actuellement, que tu puisses les encourager, Seigneur, ce matin. Pour ceux qui ont des blessures de longue date, Seigneur, qu'ils puissent ce matin trouver de la guérison de leur âme. Pour ceux qui se préparent, Seigneur, sans le savoir, à des épreuves qui s'en viennent. Et ça, c'est pour tous, Seigneur, que tu puisses ce matin nous préparer, nous forger, nous fortifier, nous donner de la perspective pour l'épreuve à venir. Parle à chacun de nos âmes, Seigneur, à chacun de nos cœurs, afin que nous puissions être ce matin, être encouragés et ne pas partir d'ici sans avoir reçu de ta part. Nous avons cette attente, Seigneur. Recevoir la parole de Dieu. Parle-nous, Seigneur, ce matin. Nous nous attendons à toi. Remplis ton serviteur de ton esprit pour parler avec justesse de ta part, afin que tu puisses parler à chaque cœur selon son besoin. Je m'attends à toi, Seigneur. Et je te demande ces choses dans le nom de Jésus. Amen. pour apprécier l'histoire de Joseph, il faut apprécier, et c'est dur de l'apprécier, la famille qu'il avait. Toute une famille. Et ce matin, j'espère que c'est une consolation pour vous qui pensez que votre famille était dysfonctionnelle ou que vous avez été élevé de manière dysfonctionnelle. Parce que ça ici, il faudrait une autre définition que pour juste dysfonctionnel. Très, très dysfonctionnel. Une famille poquée. Et pour comprendre tout ce qui se passe dans ces chapitres, il faut comprendre d'où vient la famille de Joseph. Vous savez, son grand-père a grandi dans un foyer dysfonctionnel. Je ne sais pas si vous avez lu l'histoire, mais Jacob a grandi dans un foyer où ce que papa aimait maman, oui, mais papa et maman avaient des chouchous. Rebecca aimait Jacob, le fils qui était avec elle dans les tentes, et son père, Isaac, aimait Ésaü, l'homme des bois, le chasseur qui lui amenait son gibier comme il l'aimait. Et ils avaient du favoritisme. Et les fils ont subi ce favoritisme. L'un avait un préféré et l'autre avait un préféré. Et ça a amené une compétition pour avoir le droit d'aînesse, comme vous savez. La traîtrise s'est passée, du mensonge. Et la femme et le mari se sont ramassés finalement en conflit à travers ça, à jouer chacun sur son territoire pour avoir le meilleur pour leur meilleur. Alors, qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? Bien des conflits, bien des blessures. Et de là a été engendré le conflit qui a amené la haine entre, en fait, d'Ésaü envers son frère, qui l'a trompé sous l'encouragement de sa mère, qui l'a trompé même plus qu'une fois, tellement qu'il voulait tuer son frère, il a dû être chassé, partir de la maison pendant 20 ans de temps, à cause de ce conflit qui venait de favoritisme. Oh, que le Seigneur protège nos foyers chrétiens d'avoir du favoritisme. Et combien c'est plus facile aussi aujourd'hui, avec les foyers reconstitués, d'avoir du favoritisme. Les enfants sont victimes de ce choix des parents et n'ont rien à faire dans tout cela. C'est vraiment la maturité des parents qui doit dépasser ce favoritisme pour aimer de manière égale. Sinon, ça marque les enfants et ça prépare de la haine. Et donc, Jacob qui a subi ce favoritisme, on a appris la leçon, a subi beaucoup, beaucoup de conséquences de ses choix et il l'amène dans sa famille. Il préfère ce beau petit garçon qu'il a eu plus vieux. Il avait en fait 90 ans aux alentours lorsqu'il a eu Joseph. Et il venait de sa femme favori. Bon, il y a eu du favoritisme dans sa maison aussi. Il avait 4 femmes. Ça aide pas en passant d'avoir 4 femmes. Ça ajoute un élément de complexité. Hein? C'est sûr que c'est un défi de plus, 4 femmes. Surtout avec 2 concubines puis 2 femmes. Une que tu voulais pas avoir, mais qu'on a comme forcé un peu dans le fond de la gorge par le beau-père. Et je remercie le Seigneur. Mon beau-père est pas comme ça. Alors, il est pas comme ça. Alors, après 11 ans, là, je peux en témoigner. Là, j'ai eu l'expérience assez pour le savoir. Alors, un élément de complexité. Des femmes, plusieurs enfants de différents foyers. Et là, comment gérer tout ça? Et là, ben Joseph ne s'aidait pas, faut dire. Il y avait un petit peu de peut-être un manque de maturité. Il voulait tellement bien faire qu'il bavassait. Hein? Il bavassait à son père à 17 ans. Fait que c'est sûr que c'est pas très marketing pour te faire aimer de tes frères quand t'es le préféré puis qu'ils t'haïssent déjà. T'sais? Alors, puis là, dans une naïveté, il raconte ses rêves à tout le monde, qui sont assez clairs pour que ça dérange, tu sais. Des fois, t'as des rêves, c'est assez flou, c'est pas trop dérangeant en général. Mais là, ici, ceux-là, il était assez clair que même ceux qui étaient néophytes en interprétation des rêves comprenaient. OK? C'était clair. Et là, on l'haïssait encore plus. Le petit fatiguant préféré à papa que la belle tunique, qui va toujours bavasser et qui, en plus, nous raconte tous ses rêves. Il est-tu fendant, comme en Québec on le dirait, hein? Et même dans un foyer aujourd'hui, vous savez, le problème, il se prend à haïr. OK? Surtout s'il y avait 4 femmes, mais même sans 4 femmes, mettons. OK? Alors, c'est un défi. Mais il faut voir plus loin que ça. Par le côté dysfonctionnel du foyer de son grand-père, il s'est ramassé avec tous ces problèmes-là qui sont suivis. Et là, dans son propre foyer, sur ses 12 fils, une fille, entre autres, qui nous est mentionnée, mais probablement d'autres aussi, il y avait bien des problèmes dans la famille. Le grand frère, il s'en va coucher avec une des belles-mères. Ça va pas bien. Il y a une sœur qui se fait abuser, le père fait pas grand-chose, les autres sont frustrés. Alors les deux, le deuxième puis le troisième, s'en vont régler le cas de la ville. Et ils vont toutes les tuer dans le chapitre 34. Ça amène un peu de soucis sur le plan de Jacob comme père à gérer. Ça va pas très, très, très bien, faut dire. Et là, en plus, ses fils, et on a au moins trois exemples dans le récit de la Genèse, sont en train de marier des femmes du pays, des femmes qui n'ont pas l'Éternel comme Dieu. Alors, il y a un grand danger pour sa famille d'être assimilé. Et on connaît ça, les Québécois, le danger d'être assimilé dans notre histoire. Hein? Et eux autres voulaient, le Seigneur ne voulait pas ça, mais eux étaient en train de laisser entrer tous ces problèmes et de tranquillement mettre en péril la promesse de Dieu. Tout leur choix mettait en péril ce que Dieu avait promis, qu'il ferait une grande nation d'Israël. Et l'assimilation les menaçait à ce point-là. Il était dysfonctionnel, mettons. OK? Et ça, ça explique beaucoup des comportements au point qu'ils sont prêts à tuer leur frère et à tromper le père dans tout cela. Imaginez Jacob, toutes les tristesses qu'il avait déjà vécues, et là, celui-ci maintenant, où ce qu'il va découvrir que ce fils qu'il aimait tant a été tué. On lui fait croire qu'il a été déchiré en petits morceaux. Ah, beaucoup de blessures. Et certainement, quand je raconte tout ça, même si c'est peut-être extravagant, le cas de Jacob et son foyer, plusieurs d'entre vous pensez aux blessures que vous avez vécues comme enfant. Plusieurs d'entre vous pensez à certains détails que vous avez vécus, de l'injustice, du favoritisme, de l'abus. Il y en a eu dans la famille. Dina est abusée et le père a pris ça à la légère. Et combien j'ai vu de femmes dont cette expérience a été vécue, d'abus, et que le père ou la mère n'a pas pris la défense de cette victime. Quelle douleur incroyable. Et que certains vivent ici. D'autres, ce sont les trahisons de frères, de sœurs, de parents, peut-être pour la foi, une noble cause, peut-être pour des choses complètement ridicules, et que vous vivez cette douleur. Et juste en se rappelant cette histoire, vous vous rappelez. Et peut-être certaines de ces douleurs sont revécues, et ils ont été guéris, mais ils sont quand même là. Certains ne sont pas guéris, et ça fait mal. Mais sachez que Joseph a vécu cela, il sait ce que c'est. Et il a un modèle à nous montrer à travers la main de Dieu dans sa vie pour nous aider à guérir, peu importe ce que vous avez vécu. Voilà son histoire. Prochaine diapo. Alors, l'histoire du contexte familial de Joseph. Il n'est pas rose, il n'est pas beau, il n'est pas facile, il est même difficile de vous le raconter à autant de personnes un dimanche matin, tellement qu'il est douloureux, lourd et plein de détresse. Mais Joseph a grandi dans tout ça. Et on se demande comment est-ce que Joseph a pu rester en santé mentale. Hein? Émotivement et tout ça, là, ça prenait la grâce de Dieu. Ça prenait la guérison de Dieu pour faire sortir de toutes ses douleurs un homme équilibré, de foi et pieux comme Joseph. Ça prenait la main miraculeuse de Dieu qui disait ceci: vous avez bien beau mettre votre patte sale dans mes plans, moi, je vais accomplir mes plans malgré vous. Et je vais envoyer Joseph au loin par une méthode peut-être peu catholique, peu conventionnelle qu'on aurait utilisée, mais il va être là-bas pour vous sauver et vous sortir de l'Égypte qui présentement est en train de, la Canaan qui est en train de vous assimiler. En Égypte, là, vous serez protégés dans un endroit où socialement vous pouvez pas être assimilés parce qu'on méprise les bergers et vous allez être à part. Ça va vous protéger pendant un temps où ce que vous avez un manque de maturité. Le Seigneur voulait faire accomplir sa promesse. Il allait trouver un moyen pour le faire. Peu importe la patte sale, la dépravation humaine qu'elle est faire toutes sortes de choses dans ses plans. Le Seigneur va accomplir son plan malgré tout. Mais ce n'est pas une excuse pour se laisser aller, pour être paresseux, pour juste être sur le banc des joueurs passivement ou pour faire des mauvaises décisions. Ah, oh, ben le Seigneur, de toute façon, est souverain. Il va ramener tout ça à sa gloire. Ça serait de dire que je n'ai pas compris la grâce de Dieu et que je m'assis sur la grâce de Dieu plutôt que d'être en admiration, comme on le fait dans la louange, de la grâce de Dieu dans ma vie. Mais la question vient, comment est-ce qu'il va s'en tirer? Et pour bien apprécier cela, bien, il faut avoir une bonne vision de l'épreuve, une vision des vérités de la Bible dans les difficultés, et une bonne vision pour voir les détails qui peuvent nous échapper et être une source d'espoir. Ça mène au deuxième point, celle de la vision dans les coulisses. Et j'aimerais qu'on lise ce texte dans le psaume 105, un psaume historique. Vous avez le texte devant vous. Vous pouvez le regarder. Un psaume qui admire la grandeur de Dieu, sa grâce, dans l'histoire. Et qui répète plusieurs épisodes importants, dont cet épisode. Il dit ceci. Il appela sur le pays la famine. Il coupa tout moyen de subsistance. Il était acculé au mur, dans un petit coin. Il envoya devant eux. Donc c'est Dieu, il. Dieu a envoyé devant eux. C'est pas les frères, c'est Dieu qui l'a envoyé. Il faut le noter ici, là. Il, Dieu. Un homme, Joseph, fut vendu comme esclave. Donc Dieu n'a jamais perdu le contrôle à travers tout ce processus-là. On serra ses pieds dans les liens et on le mit au fer. Jusqu'au temps. Et voyez le facteur temps bien important. Jusqu'au temps, il y avait un temps marqué. Un temps où ce que Dieu est en train de travailler pour préparer le terrain et la patience de chaque intervenant. Où il arriva ce qu'il avait annoncé. Et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Donc, il y avait l'élément qui avait une promesse sur lequel il pouvait déjà s'attacher. Il y avait une promesse qui avait été donnée à Abraham, qui avait descendu jusqu'à Jacob. Et auquel il pouvait s'attacher. Il va s'accomplir quelque chose qui avait été annoncé déjà. Dans le chapitre 15, qu'ils iraient dans un pays pendant 4 générations, 400 ans. Ça avait déjà été annoncé. Il y avait une promesse. Et il pouvait s'attacher à ses promesses. Le roi fit ôter ses liens. Le dominateur des peuples le délivra. Il l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens, afin qu'il puisse à son gré enchaîner ses princes. Et qu'il enseigne la sagesse à ses anciens. Alors Israël vint en Égypte, et Jacob séjourna dans le pays de Cam, c'est-à-dire le pays de l'Égypte. Et il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Amen. C'est la parole de Dieu. Les promesses étaient là et il pouvait s'accrocher. Et dans l'épreuve, on a besoin de garder de la vision. Et la première place qu'on a de la vision, ce sont les promesses de Dieu qui sont écrites, qui sont claires, que Dieu est avec nous malgré les difficultés, que Dieu a promis des choses, des convictions que Dieu a mis dans vos vies pour l'avenir, un appel qu'il a mis là. Ce sont des sources de repères, de réconfort. Mais il y a plus encore aussi. Parfois, vous savez, c'est intéressant comment Dieu nous envoie des petits clins d'œil dans l'épreuve. Il envoie des clins d'œil pour nous montrer qu'il est là, qu'il n'a pas perdu le contrôle, pour nous donner de l'espoir. Mais pour ça, il faut se coller au Seigneur et demander au Seigneur de nous montrer les sources d'encouragement dans les difficultés, où est-ce que je peux garder ma vision et pas partir d'un bord et d'autre. Et dans le cas de Joseph, on le voit dans le chapitre 39. Si vous lisiez le chapitre 39 au complet, 6 fois, l'auteur nous montre des clins d'œil. Il ne le fait pas ailleurs, c'est juste dans le chapitre 39, parce qu'il vient de montrer qu'il est parti au chapitre 37. Et là, il y a un suspense qui se crée, et pendant le chapitre 38, on a l'histoire de Judas, qui nous montre la décadence des frères pendant qu'il est parti. Et là, tout d'un coup, on revient et on le découvre en Égypte, dans la maison de Potiphar. Et on voit à plusieurs répétitions dans le texte, et vous pouvez les souligner, l'Éternel est avec lui. Il prospéra, car l'Éternel, la bonne main de Dieu est avec lui. 6 fois dans le texte, on envoie là un clin d'œil de la part de l'auteur pour nous rassurer, « Hey, Dieu ne l'a pas laissé faire. Il y a du succès, la main de Dieu est avec lui. Dieu ne l'a pas égaré pour rien. Il n'est pas en train de faire souffrir ça juste parce que ça y tente. Il y a une raison. Et Dieu est présent tout au long. » Et si notre ami Jacob, Joseph était proche du Seigneur, certainement il voyait non seulement les promesses de Dieu sur lesquelles il pouvait s'attacher dans l'épreuve et garder la vision, mais il avait la vision aussi pour voir les signes que Dieu lui envoie. Et vous savez, dans l'épreuve, normalement, Dieu nous donne des petits signes d'encouragement. Toutes sortes de manières. Et parfois, on est tellement dans le brouillard et dans le creux de vague, dans les ténèbres de l'épreuve, on a de la misère à sortir la tête et de voir les lueurs d'espoir et les clins d'œil de Dieu. Et c'est là qu'il faut prier, Seigneur, Seigneur, ouvre mes yeux à voir ces signes que tu me donnes d'encouragement dans l'épreuve. Ces petites tapes dans le dos, ces petits clins d'œil d'attention que tu fais pour moi, ces petites choses qui pourraient passer si inaperçues lorsque je suis submergé par mes émotions, le découragement, et que j'ai besoin de voir un petit clin d'œil. Juste un petit clin d'œil. Et peut-être ce matin, le Seigneur vous fait un clin d'œil à travers cet enseignement dans l'épreuve. Peut-être présentement, le Seigneur vous fait un clin d'œil par l'histoire de Joseph pour vous encourager, vous donner de la perspective Parce qu'on a besoin de cela pour traverser l'épreuve. S'accrocher à ses promesses et garder le cap en gardant les yeux à l'endroit qui nous encourage. J'aimerais vous partager une histoire qui illustre bien cela. Un pauvre Chinois, il s'est pris d'un... Je vous donnerai la source tantôt. Un pauvre Chinois avait un cheval tout à fait exceptionnel, un beau cheval blanc, que tous admiraient dans le village. Il était très pauvre. Et les nobles et riches de la place, à plusieurs reprises, avaient tenté de racheter ce cheval de cet homme. Il faisait le sujet de convoitise de tout le monde. Et à chaque fois, il refusait. Et il disait simplement, bien, comment est-ce que vous voulez que je me débarrasse de cet animal? C'est pas juste mon cheval pour travailler avec, mais c'est mon ami, c'est mon compagnon. Et il m'est tellement précieux qu'aucun argent du monde ne pourrait acheter cette amitié que j'ai avec cet animal. Et l'inévitable arriva. Les gens lui avaient dit de le vendre. C'est vrai, tu devrais. Il ne vendait pas. Et un jour, il se réveille un matin, le cheval n'est plus là. Disparu. Alors évidemment, les co-citoyens, dans leur grande source d'encouragement, sont venus le voir et dit, « On te l'avait dit, voyons donc, c'était évident qu'il t'allait te faire voler à m'amener une belle bête de même, tu veux pas le vendre, puis tout le monde la convoite. Tu t'es attiré le malheur toi-même. » Combien ont des voisins comme ça, hein? Source d'encouragement dans l'épreuve. Ouh! Alors, j'espère que ça vient pas des chrétiens, hein? Alors, l'homme a simplement répondu de cette manière. Écoutez bien ses paroles. « N'exagérons rien, dit-il. Disons que le cheval se trouve tout simplement plus dans l'étable. C'est un fait. Tout le reste n'est qu'une pure appréciation de votre part. Comment savoir si c'est pour le bon ou un malheur? Nous ne connaissons qu'un fragment de l'histoire. Qui sait ce qu'il adviendra? » 15 jours ont passé, et tout à coup, arriva le cheval au galop un matin, avec 12 autres chevaux sauvages qui le suivaient. Alors, évidemment, tous les concitoyens sont venus le voir et disent, t'avais raison, c'est vrai, finalement, t'es béni, t'es tellement chanceux. Waouh! Finalement, t'es béni, ça n'a pas d'allure. Il t'en a amené 12, t'en avais juste un. Et là, t'as le riche, tu peux pas faire toutes sortes de choses, tu peux en vendre, puis avoir de l'argent, puis waouh! Regardez ces paroles de l'homme maintenant. Je n'irai pas jusque-là, fit le paysan. Contentons-nous de nous dire que le cheval blanc est revenu. Comment savoir si c'est une chance ou un malheur? Ce n'est qu'un épisode. Peut-on connaître le contenu d'un livre en lisant que quelques phrases ou chapitres? Évidemment, les villageois le trouvaient fou, vieux fou, radoteux. Ça n'a pas d'allure, il n'est même pas capable d'apprécier tout ce qui lui arrive. Et qu'est-ce qui arrive? Au bout d'un certain temps, son fils est en train d'entraîner ses chevaux sauvages pour les mettre au pas. Et dans cet entraînement, là, le jeune homme est blessé, estropié au niveau des jambes, incapable dorénavant de pouvoir aider son père. Ce jeune homme est marqué pour la vie. Alors tous les concitoyens bienheureux viennent et voient l'homme et disent, « t'avais raison finalement, c'est pour ton malheur ces bêtes-là. Pauvre toi, dorénavant t'as plus quelqu'un pour t'aider dans les champs et tout le travail. Ton fils unique, blessé pour la vie, estropié. » Voyons, rétorqua le paysan. N'allez pas aussi vite. Mon fils a perdu l'usage de ses jambes, c'est tout. Qui dira ce que cela aura pour impact dans l'avenir? La vie se présente par petits bouts. Nul ne peut prédire l'avenir. Et évidemment, au bout de quelques mois, une guerre commença. Et tous les jeunes hommes furent obligés d'embarquer dans l'armée et furent recrutés. Mais qui ne fut pas obligé d'y aller? Le jeune homme unique, le fils unique de son père, qui était estropié. Alors tous les citoyens vinrent voir l'homme encore une fois. Il dit, « Oh, vieil homme, se lamenta le village, tu avais raison. Ton fils ne peut plus marcher, mais au moins il reste auprès de toi, tandis que nos fils vont à la gare, et qui sait s'ils reviendront. » Et je termine par cette citation de l'homme pour terminer. « Je vous en prie, répondit le paysan, ne jugez pas hâtivement. Vos jeunes gens sont enrôlés dans l'armée. Le mien reste à la maison. C'est tout ce que nous puissions dire. Dieu seul sait ce qui est pour le bien et ce qui est pour un mal. Et parce que j'ai décidé de croire que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, dans le Dieu de la Bible, je dois garder cela en perspective et tirer de la sagesse de ce vieil homme chinois. Qui sait ce qui arrivera? Pourquoi c'est arrivé? Oui, ça sent le malheur, mais c'est encore une fois qu'une partie de la pièce de théâtre de nos vies qui est devant nous et qui a des éléments trompeurs, des éléments qui trompent l'apparence. Et Dieu tire dans les coulisses des ficelles que nous ne voyons pas et que nous pouvons seulement apprécier par la foi dans ses paroles que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ces paroles venaient du livre « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas Etzenberg. Maintenant, l'un des grands défis lorsqu'on, même si on garde la vision et qu'on voit les clins d'œil de Dieu, ce sont de gérer les souffrances qui sont engendrées par, et toutes ces douleurs, la dureté de l'épreuve qui sont engendrées par l'épreuve. Et parlons de la souffrance pour un instant. Prochaine diapo. Dites-moi à haute voix, quelles sont les souffrances qu'a certainement vécu Joseph à travers toutes ses difficultés, lorsqu'il était découragé peut-être en prison, lorsqu'il était en voyage, en train de marcher jusqu'en Égypte? Qu'est-ce qu'il pouvait ressentir comme douleur, Joseph? Vous avez une idée? Le désir de vengeance? Le rejet? Le désir de la présence de ses frères? La solitude, l'abandon? D'autres choses? De l'injustice, oui, de l'injustice, qui engendre souvent de la colère, de la frustration. De la haine, il a certainement lutté avec la haine. Il avait subi tellement de haine et il subissait tellement de conséquences, une à l'arrière de l'autre, qui n'arrêtait pas. C'est comme si la malchance le suivait jusqu'à un certain point, même s'il y avait des clins d'œil de bénédiction de Dieu. Quelle autre souffrance aurait pu vivre au niveau émotionnel? Comment? La prison était une des souffrances. La trahison. L'angoisse. Hein, imaginez. La solitude qui souvent amène cette angoisse dans la solitude de la prison. Isolé, loin de tout repère. Abandonné de tous. Et on en nomme juste quelques-uns ici. De toutes ces douleurs qu'il a vécues. Laissez-moi vous en nommer quelques-uns que vous avez mentionnés et d'autres. Oui, la trahison, l'abandon. Il a vécu des sentiments et des douleurs de toutes sortes. Le rejet, le manque de respect, le complot contre lui, accusé injustement, et non seulement avec ses frères, mais en plus une fois qu'il travaillait pour Potiphar. Oublié, mis sur une tablette. Oui, la solitude, la tristesse. Combien de larmes? On a déjà un aperçu de combien de larmes qu'il a versées. Après, combien pendant il a versé de larmes? Et c'est correct. C'est un outil que Dieu nous a donné, les larmes, pour exprimer ses douleurs, ses tristesses, et ses saints. D'être mis de côté, incompris, jugé. La frustration. Et certainement en prison. L'ennemi devait être juste sur son épaule en train de penser toutes les choses qu'on lui avait faites. Et de vouloir les repasser. Et les repasser, mais sans solution. Et l'amener à contempler tellement ces choses pour l'amener au découragement, à la dépression. Et même jusqu'au suicide. Il a été sujet à toutes ces choses. Et vous savez, autour de nous, toutes ces choses que je viens de nommer, des gens dans l'Église, à l'extérieur de l'Église, le vivent quotidiennement. Autour de nous, dans les souffrances que l'on décrit, tant de souffrances, ici, dans cette assemblée, dans vos familles, dans votre entourage, tellement de souffrances, que Dieu nous ouvre les yeux aux souffrances qui nous entourent pour avoir beaucoup plus de pitié que des paroles dures ou hâtives face à toutes les choses qui viennent vers nous. Il a subi de la souffrance humaine, intellectuelle, succès détruit par le mensonge, beaucoup de souffrance émotionnelle, trahison familiale, physique par l'esclavage, la prison, et spirituelle. Et c'est intéressant, l'homme dont on décrit le plus grand nombre de souffrances dans le livre de la Genèse est celui aussi dont on retrouve le plus grand nombre de fois qu'il pleure. 9 fois. Sur 16 fois que le mot « pleurer » est mentionné dans le livre de la Genèse, 9 fois, c'est Joseph. C'est Joseph. Et il pleure en passant après sa guérison. On va y arriver un instant. Mais il pleure à chaque fois après la guérison. Donc, il y a encore des douleurs, il y a encore des blessures qui sont là, même s'il est guéri. Et on va le voir, ces éléments-là, ici, dans quelques instants. mais il pleure. Les autres fois dans le livre, c'est une fois ou deux par personne, et c'est pour le deuil en général. Et dans son cas, ça exprimait tout le moment où ce qu'il revivait en voyant ses frères, les souvenirs et les douleurs qui étaient rattachés à tout ce climat familial et les blessures qu'il avait vécues. Vous savez, ça veut dire qu'il était en contact avec ses émotions. Il était capable de pleurer. Et vous savez, chez nous les hommes, parfois, la critique vient facilement sur notre dureté de cœur, notre incapacité à pleurer, souvent par méprise que c'est d'être masculin, que c'est d'être un homme. Et ça, c'est tout de la bouillie pour les chats. Du mensonge. Un homme qui pleure, c'est un homme qui simplement est en contact avec les blessures et les émotions intérieures. Et c'est important pour guérir et pour avancer dans la vie. Le Seigneur ne permet pas que l'être humain puisse pleurer pour rien. Et si les femmes pleurent davantage, ils ont plus naturellement ce lien avec leurs émotions et ce qu'ils vivent. Plutôt que nous, la tendance masculine de prendre la souffrance, de la mettre d'une chaîne dans le fond de ma tête, bien creux, de mettre un cadenas à triple tour et de jamais aller me promener dans le fond du jardin pour être proche de la chaîne en question. Mais un jour ou l'autre, vous savez ce qui arrive? Les murs de la chaîne tombent. Et notre capacité de retenir à l'intérieur toutes ces blessures et ces émotions tombe. Et quand ça tombe, c'est encore plus douloureux, ça fait encore plus mal et ça fait encore plus de dommages. Parce qu'on n'arrive plus à le gérer. Et Joseph était en lien avec toutes les souffrances qu'il vivait. Il était capable de les exprimer, de pleurer devant les difficultés. Et quand il était reconfronté à des situations qui lui avaient fait mal, le souvenir. Et en fait, vous savez, dans tout le Pentateuch, les pleurs sont utilisés que 10 autres fois. Et généralement, pour des pleurs qui sont liés à la repentance. Les pleurs de larmes, souvent des conséquences même. Joseph est particulier, très particulier. Et ses frères avaient péché contre lui, et ses larmes manifestent la douleur qui était associée. Et peut-être ce matin, certains ont juste besoin de pleurer. Et l'Église devrait être une de ces endroits où on peut simplement pleurer. On a une sœur dans notre Église qui vit des difficultés où son mari s'est éloigné de Dieu et vit beaucoup d'égoïsme et elle subit beaucoup, beaucoup, beaucoup de difficultés liées à ça. Et elle le fait et elle vit cela avec une... Elle nous impressionne, ma femme et moi. On la connaît depuis 9 ans. Et de voir ce qu'elle fait, comment Dieu la change pour s'adapter à l'épreuve, c'est d'une édification incroyable. Elle a renseigné, elle a 30 ans, elle a renseigné à toutes les femmes ici le modèle qu'elle a de subir les choses qu'elle fait et le faire avec une attitude que seulement Dieu. Oh, il y a des moments qu'elle vacille, qu'elle se décourage, mais de manière générale, elle le fait avec la puissance de Dieu. C'est remarquable. Vous savez une des choses qu'elle fait? À tous les mercredis soirs, pendant des mois de temps, je peux vous dire qu'elle venait au groupe et qu'elle pleurait une bonne partie de la soirée. Et c'était correct. On le savait pourquoi elle pleurait, on priait pour elle, et elle savait qu'elle pouvait pleurer ici en toute paix et tranquillité. Et que c'était l'endroit dans la famille de Dieu où est-ce que je pouvais pleurer et être épaulé. Ici, on m'accepte avec mes larmes, on prie pour moi, on me soutient. Et elle pouvait s'ouvrir sous ses douleurs. Et quelle force que ça lui donne! Parce qu'elle a plus de prières, elle se vide le cœur devant Dieu et devant sa famille spirituelle. Et quelle force que ça lui donne dans l'épreuve! C'est incroyable. C'est une édification incroyable. Et ça fait 2 ans qu'elle doit persévérer à travers cela. Souvent, c'est les dimanches matins. Elle va juste se mettre d'un endroit plus discret. Et là, elle pleure dans les temps de louange régulièrement. Elle en a besoin. Et pourtant, ce n'était pas une bête émotive, OK? Elle ne faisait pas ça avant. C'est devant l'épreuve et toutes les douleurs que ça lui cause. Mais le Seigneur la guérit, la fortifie, et que c'est merveilleux. Mais il y a les larmes. Et les larmes expriment non seulement la douleur elle-même, mais elles viennent aussi parfois après la guérison, lorsqu'on se rappelle les choses. Je vous partage quelque chose de très personnel à moi. Mais il y a quelques mois, ma femme et moi, je suis en paternité en passant jusqu'à demain. Je suis depuis 25 semaines en congé de paternité. Je ne donne qu'un petit 25% à l'Église pour m'occuper de ma famille et je recommence mardi. Alors, je suis ici, après ça, je reviens de repos. Je pourrais pas avoir la liberté de prendre des fins de semaine off. C'est rare pour les pasteurs, fait que j'en profite. Et Pendant ce congé, on voulait investir dans notre couple, ma femme et moi, et on a décidé d'aller passer une semaine seul, sans les enfants, et d'aller à cœur. Alors, c'est un endroit où ce qu'on peut prendre un temps vraiment de retraite et qui était vraiment bénéfique pour nous. Notre couple n'était pas en danger, ça allait de manière généralement bien, mais il y avait plusieurs affaires que Julie et moi, on voulait travailler, on voulait aller plus loin, et on croyait vraiment que Dieu allait utiliser ça pour nous aider à aller plus loin. Et vous savez, les trois premiers jours, une grande partie du temps qu'on était là, on priait. Puis je dirais qu'à les trois premiers jours, facilement, je pleurais chaque jour, chaque matin, pendant ces sessions-là. Et pourtant, j'ai été protégé de tellement de choses dans un bon foyer. J'ai été protégé de tellement de choses dans mon entourage. J'ai été béni par des pasteurs qui se sont donnés dans ma vie. J'ai été protégé de tellement de choses. Et pourtant, j'avais des douleurs et des souffrances qui étaient là. Et que dans mon intellectualisme, parce que je suis très orienté vers l'intellectualisme, je mettais dans un coin, je disais, oh, je l'ai adressé, c'est réglé, il me semble, j'en veux pas cette personne-là. Et pourtant, quand je retournais en arrière, que je faisais face à ces choses, j'avais plusieurs douleurs. Et les trois premières journées, je pleurais chaque matin dans nos temps qu'on passait ensemble. Et vous savez quoi? C'était nécessaire. C'était bon. C'était de Dieu. Ça fait du bien. Et c'était le processus pour guérir. C'est divin. Mais il faut le faire avec la parole de Dieu. Il faut adresser ces douleurs et les faire de manière qui honore Dieu. Comment les guérir? Regardez bien un texte qui nous échappe facilement dans la vie de Joseph, dans chapitre 41, la prochaine diapo. Et j'aimerais vous donner ici un élément de la vie de Joseph qu'on passe facilement par-dessus, un détail, et qui pourtant est une clé pour apprécier ce qui se passe dans la vie de notre ami Joseph, la guérison. Et vous allez voir que c'est après cela qu'on voit les larmes. Donc, les larmes viennent après la guérison aussi. Et regardez au verset 50 du chapitre 41. Avant les années de famine, donc on n'a pas complété les 7 ans d'abondance, il naquit à Joseph 2 fils que lui enfanta Asnath, la fille de Potiphéra, prêtre d'On. Et Joseph donna au premier-né le nom de Manassé. C'est intéressant, Joseph ne donne pas un nom égyptien à ses fils. Il donne un nom hébraïque, qui est rempli de sens. Et ça dit déjà beaucoup sur son état de cœur. Il ne veut pas oublier, il ne veut pas mettre en arrière et faire comme ça n'existait pas. Mais regardez pourtant ce que veut dire son nom. Il dit tout de suite après, « Car, dit-il, Dieu m'a fait oublier. » C'est le verbe Manassé qui est là, « oublier ». Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon père. Et ensuite, au verset 52, il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond. Le nom vient du verbe fécond en hébreu. Dans le pays de mon affliction. Reconnais ici la douleur de l'affliction du pays où il a été placé, et pourtant il est capable de louer Dieu de l'avoir guéri, fait oublier, on va expliquer ça dans un instant, et il loue Dieu pour la bénédiction qui est encore avec lui. Il m'a rendu fécond, c'est donc de Dieu que vient tout ce que j'ai reçu et qui est bon. Et il loue Dieu, et la venue d'enfant est devenue un point marquant où il a pu mettre dans le nom de cet enfant le souvenir de ce que Dieu a fait dans son cœur. Intéressant, hein? Et on peut passer facilement sur ce détail. Et en fait, lorsqu'il parle, cette expression d'oublier est un synonyme de pardon, de mettre en arrière. Il est vrai qu'on peut pas nécessairement oublier l'épisode, mais de laisser en arrière et jamais le ramener au présent. Pas pour le nier, mais pour pas justement se détruire à ramener en avant quelque chose qui est du passé. Après avoir bien fait face aux douleurs qui y sont associées. L'auteur bien réputé, M. Hamilton, a dit ceci. À la naissance de Manassé, il est libéré du traumatisme émotionnel qui le liait. Le désespoir donne place à la revitalisation. Bon, j'y arrivais. Dans sa vie. Intéressant. Que son histoire n'a pas été purgée de sa pensée est évident dans le nom qu'il leur donne. Alors que la deuxième est très vraie, on peut justifier de douter du premier. Ce rapport très sec soulève des questions dans notre pensée que la prochaine histoire viendra répondre lorsqu'il va rencontrer ses frères. Et la rencontre de ses frères, on doit le comprendre après ce verset-là, qu'il était déjà guéri. C'est ça qui explique le comportement où est-ce qu'il est en train de mettre à l'épreuve ses frères. Il n'est pas en train de se venger. Mais si on ne comprend pas cela, on peut passer à côté de ce détail clé pour comprendre les chapitres 42 à 45. Très important. Maintenant, on pourra parler longtemps du pardon. Je ne le ferai pas ce matin, mais j'aimerais vous donner au moins cette citation. Elle est très importante et elle vient en fait du manuel de Cœur à cœur et qui souligne, et c'est un élément important et qui vaut la peine d'être lu. Ceci dit, quand quelqu'un pêche contre nous et nous a blessés, notre sens de justice demande et réclame qu'une justice, un juste paiement soit fait pour le tort causé. Si cette personne ne peut pas ou ne veut pas payer, nous en sommes indignés. Soit que l'amertume et la colère s'installent et nous mènent à la dépression, ou que nous pardonnions et ayons la paix. On a un choix. Si nous choisissons d'agir comme Dieu, qui nous a fait grâce, et assumons le paiement pour la douleur qui nous a été causée, nous serons libres de tout ressentiment, d'amertume, de colère et de dépression. Dans mesure où nous affranchissons l'offenseur par notre pardon, nous nous dégageons des effets négatifs qui découlent des attitudes destructives du non-pardon. Pardonner n'est pas facile. Nous ne voulons jamais pardonner quelqu'un qui nous a fait du mal, d'autant plus lorsqu'il ne le confesse pas, ne l'avoue pas ou ne change pas. Et dans notre fort intérieur, nous croyons qu'il mérite de payer pour la peine qu'il nous a causée. Et c'est ce que la justice demande et réclame. Le pardon implique, par contre, notre volonté d'aller à la croix pour cet offenseur et de payer pour la douleur. Quelqu'un doit payer pour, à quelque part, émotionnel qui nous a été occasionné. Jésus aussi a vécu un combat en allant vers la croix, mais il a choisi de faire la volonté de Dieu lorsqu'il a vécu ce combat dans Matthieu, chapitre 26, verset 39. Pardonner, c'est de se centrer non sur nous-mêmes, mais sur les autres, et de choisir librement d'aller à la croix au nom du malfaiteur pour se trouver libéré, libéré de cette souffrance. Et j'aimerais vous dire que le Seigneur Jésus-Christ a promis qu'une partie de son ministère était de guérison. Et on ne met pas assez d'accent. Lorsque Jésus dit en Luc, chapitre 4, et le verset 18 à 19, et qu'il raconte sa mission, « Voici pourquoi je suis venu, les amis. Je suis venu pour guérir les affligés. » Et on voit que le mot « guérir » est utilisé autant pour des guérisons physiques, sinon davantage pour des guérisons émotionnelles et spirituelles que le Seigneur apporte dans la vie des gens, dans tout le long de son ministère. Autant. Et j'aimerais vous dire ce matin que cette promesse est pour vous. Le Seigneur veut et peut te guérir si tu lui confies ta douleur, que tu ne le nies pas, tu ne la caches pas, mais que tu lui donnes. Et ce matin, il t'invite à lui confier par la foi, à lui donner. Voici ce qu'elle donnera, cette liberté du cœur. Dernier point en terminant, prochaine diapo, cette liberté. Regardez ces versets, ils sont importants. On va terminer avec ces deux versets. Vous les connaissez, mais là que je vous ai raconté tout ceci, vous allez les apprécier beaucoup plus. Parce que là, on comprend davantage ce qu'il est en train de dire. Et on comprend qu'il a été guéri. On comprend que le Seigneur lui a fait l'aider à faire face à toutes ses souffrances et ce que ça implique. Lorsqu'il dit ses paroles, et qui ne sont pas des paroles dites en l'air. Et là, c'est celui qui vit l'épreuve, qui dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, mais à sa manière. Regardez bien, chapitre 45, le verset 5. Maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés. Eux autres aussi vivaient avec la culpabilité, ils géraient mal. Il y avait de la colère, de la frustration de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. C'est Dieu qui m'a envoyé et c'est pour vous sauver. Arrêtez de vous culpabiliser. Dieu n'a jamais perdu le contrôle, le Dieu de notre père, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labeur, ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister, centré sur eux, dans le pays, et vous faire vivre dans une grande délivrance, par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu qui m'a établi père de Pharaon, maître de toute la maison et gouverneur de toute l'Égypte. Mais on va aller un pas plus loin, un pas de plus, le pas final. Regardez chapitre 50. Non seulement il est guéri, mais regardez ce que la guérison apporte, la liberté de l'âme, la liberté d'action. Verset 19 du chapitre 50, le père vient de mourir et il dit, « Soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous avez médité, et leur intention était ça, de faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, il les rassure maintenant. Je vous entretiendrai, vous et vos enfants. » Et notez cette dernière phrase. Il les consola en parlant à leur cœur. Voilà la raison pourquoi le ministère cœur à cœur a une bonne raison d'utiliser ces termes. Il parla à leur cœur. Il est venu parler là où ils avaient des blessures, là où ils avaient des craintes, là où ils avaient de la culpabilité. Il est venu parler où leurs émotions étaient en envers, où ils étaient de l'autre côté, les offenseurs. Pour leur donner de la perspective. Ce que lui avait vécu, parce qu'il était guéri, lui permettait maintenant d'aider d'autres à vivre. Et ça, chers amis, c'est un fruit de la guérison. Non seulement vous avez vécu des choses, vous en avez été guéri, et maintenant vous aidez d'autres personnes. Et si Dieu a permis dans votre vie une quelconque malheur, a permis une quelconque souffrance, ce n'est pas pour vous perdre, mais c'est pour vous guérir, pour que vous puissiez participer à la guérison d'âme. Et autour de nous, autour de cette église, dans ce quartier, dans votre famille, dans vos enfants, dans vos frères et sœurs, parents, aux collègues de travail autour de vous, il y a des gens qui souffrent. Et si vous ne vivez pas la guérison, vous ne pourrez pas l'offrir et prendre soin des autres. Et voilà ce que Dieu veut faire avec vous. Non seulement vous guérir, mais il veut nous guérir et de faire de nous des outils de libération pour d'autres. D'où le mot ambassadeur de la réconciliation que Paul utilise. La question, est-ce que je suis prêt? Est-ce que je suis prêt à faire face à cela et vivre ce que Joseph a vécu? Rappelez-vous ces paroles de ce sage chinois qui a reconnu cette réalité. Pourquoi cette trahison que Joseph a vécue? Pour l'amener en Égypte. Dieu savait qu'ils étaient en danger d'assimilation. Pourquoi la trahison de la femme de Potiphar? Pour l'amener en prison. Il fallait qu'il soit là. Pourquoi aller en prison? Pour montrer son don d'interprète des rêves à les chansons du roi. Pourquoi attendre 13 ans? Pour forger son caractère et en faire une perle qui encore 3000 ans passés, près de 4000 ans, nous admirons son caractère et le comparons à Jésus-Christ, souvent. Peut-être ce matin, le Seigneur a différents scénarios pour vous. Peut-être ce matin, le Seigneur t'invite à t'abandonner ce matin, à faire face à quelque chose qui, ce matin, a rejailli. Et le Seigneur veut te guérir. Peut-être ce matin, es-tu dans l'épreuve et le Seigneur veut t'encourager de garder le cap, d'avancer. Peut-être, comme l'ensemble d'entre nous, ce qui est certain, Dieu veut te préparer, te donner maintenant le temps de prendre une décision, de garder le cap lorsque l'épreuve viendra, car s'il y a une certitude, c'est qu'il y en aura encore. Et peut-être vous la subirez en revenant à la maison à midi, peut-être demain au travail, avec un enfant cette semaine, je ne sais pas. Le Seigneur veut te préparer ce matin, et ça c'est une certitude. Et si vous avez une douleur ce matin que vous voulez donner à Dieu, je vous invite à faire cette prière avec moi. Prochaine diapo. Et vous rappelez ce verset, nous savons que toute chose contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés selon son plan. Mais faites cette prière suivante avec moi si vous avez une douleur à confier au Seigneur. Et vous faites cette prière très simplement. Seigneur, je choisis de pardonner le nom de la personne pour telle offense. Ce qui m'a fait sentir de telle manière. Je consens à payer pour la douleur émotionnelle et pour les conséquences que cette personne m'a occasionnées. Je te demande, Seigneur, de reprendre le terrain que j'ai donné à l'ennemi pendant cette période de temps à cause de l'amertume. Et je cède mon cœur à ton contrôle. Et vous savez, vous ne pouvez pas faire cela avec un package deal de problèmes. Ah, Seigneur, tu les connais toutes la gang, je t'ai mis toute la gang, là. Prends-les toutes. C'est pas comme ça. Le Seigneur ne fonctionne pas avec des package deals. C'est comme le salut. Il va à une unité à la fois, individuellement. Il ne fera pas une gang, puis on les sauve toute la gang. Le Seigneur guérit individuellement. Et le Seigneur veut te guérir de chacune des blessures. Et ça peut prendre des heures dans la prière, de prendre cette prière-là et dire, Seigneur, je te cède telle affaire. Et là, d'attendre, Seigneur, moi, il y a toute autre chose que j'ai besoin de te céder. Montre-moi là. Et vous pouvez attendre là 10 minutes, 15 minutes, une demi-heure. Et là, le Seigneur vous montre une autre blessure, une autre situation. Et que là, vous mettez devant le Seigneur. Et que vous vous purgez de toutes ces blessures, de toutes ces colères, de toute cette amertume, de tous ces abus, de toutes ces choses qui vous hantent. Et qui peuvent vous détruire potentiellement, mais que Dieu, la personne de Jésus-Christ, veut vous libérer. Est-ce que vous le croyez ce matin? Que le Seigneur Jésus veut te guérir et qu'il a promis de te guérir. Mais suis-je prêt à faire face à ces douleurs et lui donner? Là est la question. Il vous invite à le faire ce matin. Prions ensemble, j'ai invité le groupe de louanges à venir terminer pendant qu'on prie. Notre Père Céleste, tu connais toutes les douleurs humaines. Tu les as vécues. Tu as vécu le deuil, Seigneur. Tu as vécu la trahison. Toi, Seigneur Jésus, tu as vécu la solitude. Tu as vécu les tentations de l'ennemi. Tu as vécu toutes ces choses, Seigneur. Mais tu les as vécues parfaitement, collées à ton Père. Et même ces douleurs devant la croix, nous les avons senties, Seigneur, lorsque nous lisons le texte des Écritures et qu'il mentionne combien tu étais troublé à l'intérieur, angoissé. Mais tu l'as remis, Seigneur, entre les mains de ton Père et le Père Céleste t'a donné la force d'aller à la croix pour mes péchés, pour nos péchés, pour nous racheter et pour nous guérir parfaitement, Seigneur. Et je crois que dans cette salle, Seigneur, tu veux guérir des gens à tous les niveaux. Peut-être est-ce quelqu'un qui s'est éloigné de toi par des déceptions dans l'Église. Peut-être c'est face à la famille, des difficultés conjugales, des déceptions au travail, dans la vie, des attentes non remplies, non dites aussi, des abus de toutes sortes, physiques, émotionnels, spirituels, sexuels. Seigneur, tu guéris toute douleur. Et ce matin, je te prie pour ceux qui sont en train de lutter présentement, de confier leur douleur à toi, Seigneur. Je te prie de les rassurer, qu'ils puissent sentir ta main bienveillante, qui les aime comme un père qui tendrement veut les serrer, les consoler, essuyer les larmes. Et c'est ce que tu dis que tu verras, Seigneur, dans les cieux un jour, lorsqu'on sera avec toi, qu'il y aura un arbre duquel tu consoleras tous nos larmes d'ici-bas. Oh, merci, Seigneur, de cet encouragement. Puissions-nous tous vivre cette délivrance qu'a vécu Joseph. Et que nos caractères puissent devenir des perles, comme tu as fait dans la vie de Joseph, mais sur tellement d'années de difficultés. Il n'y a pas de croissance, Seigneur, sans douleur. Et nous te demandons de nous donner de la persévérance, d'être remplis de l'Esprit, Seigneur, pour garder le cap. Et je te prie pour mes frères et sœurs ici à l'Église baptiste de Longueuil, que tu puisses les encourager ce matin. Je te prie pour ceux ou celles qui n'ont pas encore cédé leur vie à toi, Seigneur, qui n'ont pas vécu le pardon de Jésus-Christ, qui n'ont pas encore reconnu leurs péchés, leurs besoins du pardon, du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et je te prie qu'ils puissent ce matin céder présentement leur lutte à toi, Seigneur, et qu'ils puissent te le confier et trouver la liberté. Et je te prie ces choses, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ et pour ta seule gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.